Touche pas à mon schiste.
Paul Renard.
Thierry Gauthier. Alors Paul, on se retrouve après la trêve des vacances. Hein. Les vacances sont finies, mais les pétroliers ne prennent pas de vacances, semble-t-il. Hein.
Non, les pétroliers n'ont pas vraiment pris beaucoup de vacances. Ils en ont profité pour faire un gros travail de lobbying auprès des médias et auprès des politiques, en fait. Donc on a vu que Total avait payé un voyage, organisé un voyage avec des journalistes français. On a retrouvé des extraits in extenso du dossier de presse de Total dans le monde. On a les radios, les chaînes de télé, toute la presse écrite qui a un peu suivi, et maintenant les ministres comme Montebourg qui nous dit mais non, il faut quand même aller voir, et puis donc le Premier ministre suit et tout le monde suit.
Alors ce qui est surprenant, c'est que jusqu'à présent, il faut reconnaître que le débat portait vraiment sur la partie environnement, hein, partie pollution, un peu sur la transition énergétique, mais surtout là-dessus, c'est surtout les associations qui ont fait porter ce débat. Et pendant l'été, finalement, le débat a surtout eu lieu sur le poids économique d'une telle ressource de matière première, finalement, dans nos sous-sols.
Voilà, ben là, maintenant, c'est vraiment les foreurs ont mis l'accent sur le fait que nous avons une mine d'or sous les pieds.
Et on serait bien bête.
Que c'était ridicule de pas y aller. Que c'était créateur d'emplois, que c'était, etc., etc. Et que finalement, en faisant ça très bien, on pourrait, les problèmes environnementaux seraient secondaires et on pourrait les éluder, quoi.
Ouais, ce qui est étonnant parce que, on rappellera, je pense que tout le monde le sait, que la majorité du gouvernement a changé. Mais on pourrait se demander également où sont ces élus locaux qui étaient à tendance assez verte et plutôt aussi de gauche. Hein. On peut reconnaître qu'il y avait beaucoup d'élus de gauche également, mais aussi des élus du MP qui étaient des élus locaux qui étaient contre les gaz de schiste et qu'on retrouve au sein du gouvernement et ils ont oublié leur engagement.
Voilà, même on se souvient, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an, Jean-Marc Ayrault, un an plus deux mois, Jean-Marc Ayrault avait soutenu à la tête de 100 députés socialistes une proposition de loi disant qu'il fallait interdire carrément la recherche et l'exploitation des gaz de schiste. Ils avaient été suivis par une cinquantaine de sénateurs. Donc tous ces gens-là se retrouvent maintenant au pouvoir et ils nous disent « bah non, maintenant il faudrait qu'on aille voir ».
Il faut qu'on soit raisonnable.
Voilà, soyons raisonnables. Et en fait, c'est vraiment une guerre des nerfs, quoi, en fait. Les médias et les politiques, alors qui s'appuient sur qui, ben, les deux, conjointement, sont en train de petit à petit d'essayer de retourner l'opinion pour dire ben non, finalement il faut qu'on y aille, quoi.
Et alors, il faut quand même reconnaître que l'opinion, alors on a souvent distingué effectivement l'opinion des villes et l'opinion des campagnes. C'est vrai que les associations qui ont travaillé sur les gaz de schiste depuis plus d'un an et demi, presque deux ans, les gens sont convaincus parce que c'est pas simplement une sorte d'a priori infondé, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de débats, de conférences très techniques sur le problème du gaz de schiste, c'est que les gens finalement sont semble-t-il, plus au courant que certains politiques sur le problème des gaz de schiste.
Bah, les politiques, je pense qu'ils sont quand même au courant, quoi. Mais en fait, l'économie prend le dessus, quoi. C'est bien sûr, actuellement, c'est pas propre. Il y a de la pollution, il y a des problèmes sismiques. En Angleterre, par exemple, où il y avait eu un moratoire d'un an suite à un séisme, l'Angleterre a redonné maintenant l'autorisation de forêt en disant qu'il fallait encadrer.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est l'encadrement.
Il fallait encadrer les forages et que, en cas de problème sismique en surface de plus de 0,5 sur l'échelle de Richter, il fallait arrêter. Mais si un jour il y a un séisme de 4,5 ou de 5, bah oui, on va arrêter, mais ce sera trop tard.
Tout à fait. Voilà.
Donc, en fait, c'est vraiment l'économie qui prend le dessus.
Et alors, il semble qu'on oublie le problème de l'eau, hein, on élude le problème de l'eau parce que il y a à la fois donc le besoin énorme en quantité d'eau pour réaliser une fracture hydraulique et puis il y a également la pollution des nappes phréatiques de tout le réseau karstique, hein, souvent voilà. Dans nos régions.
Donc sur la quantité d'eau, enfin on le voit en ce moment cet été aux États-Unis, il y a une guerre entre l'agriculture et les agriculteurs et les foreurs. Il y a un manque d'eau crucial et les foreurs utilisent tellement tellement d'eau qu'il n'y a plus d'eau pour l'agriculture. Donc ça, on le voit. Après, pour ce qui est de la pollution, on nous dit, mais non, les entreprises françaises qui sont chargées de dépolluer l'eau sont les meilleures du monde, elles seront capables de dépolluer l'eau. Alors qu'on sait que dans cette eau, il y aura des éléments radioactifs, il y aura du benzène, il y aura des acides, il y aura des tas de choses.
On ne sait pas enlever de l'eau,
quoi, en fait. Si Areva savait le faire, il y a longtemps qu'il le ferait, quoi. Oui.
Alors, autre argument également, finalement, qui est donné par les experts des grandes compagnies pétrolières, c'est que et par les politiques, ils disent voilà, on a une ressource, on la connaît pas. Bon, donc on autorise les puits de recherche. On va voir quelle la quantité de gaz, on va estimer la quantité de gaz, et puis après on jugera. Sauf que c'est un peu hypocrite. J'imagine que s'il y a beaucoup de gaz, on l'exploite.
S'il y a beaucoup de gaz, on l'exploite. Si on dit on va voir, c'est pour aller voir s'il y en a, quoi.
Voilà.
Après, sur les quantités, on sait que les foreurs donnent des quantités vraiment beaucoup plus importantes que ce qui existe réellement. On l'a vu en Pologne, où on donnait des milliards de barils de gaz. Et puis finalement, la société Exxon a arrêté de forer, a quitté la Pologne parce qu'il n'y a pas assez de gaz de schiste, alors qu'on disait que c'était vraiment l'Arabie
Saoudite
européenne.
On s'est rendu compte qu'il y avait également une dimension spéculative, c'est ça, sur l'estimation des stocks.
Exactement. Voilà. C'est que les entreprises qui sont pas toujours des foreurs, c'est des fois des petites entreprises financières font des demandes de permis, revendent ces permis sur des stocks estimés mais pas du tout prouvés, font de l'argent et font monter leur cours en bourse, et c'est vraiment de la spéculation, quoi.
Donc les esprits sont en train d'être travaillés. Alors quelle est l'étape suivante finalement de ce travail finalement de préparation de l'opinion?
Alors,
parce qu'une fois qu'on aura fait le tour des journalistes, il y a beaucoup d'émissions à la télévision, à la radio, quelle est l'étape suivante, parce que c'est très orchestré.
L'étape suivante, c'est qu'il y a la conférence environnementale qui était prévue donc pour le 14 et 15 septembre, à laquelle sont conviés des associations et des chercheurs et des tas de gens et des politiques. Au cours de cette conférence environnementale, il y aura donc un sujet gaz de schiste. Donc faut-il ou ne faut-il pas aller chercher le gaz de schiste?
Mais alors justement, faut-il ou pas non plus participer à ce...
Voilà,
c'est aussi une autre position.
C'est la question. Donc voilà. C'est un grand débat dans les collectifs. Mais de quoi est-ce qu'on va débattre à propos des gaz de schiste? Tous les problèmes environnementaux, on les connaît.
Bien sûr.
Pollution de l'eau, pollution de l'air, pollution de la terre. Ça, c'est une certitude. Tous les politiques qui ont fait le voyage en Pennsylvanie sont revenus horrifiés. Certains l'ont pas dit parce que ça la foutait mal, parce qu'on allait se faire mal.
Il y a un vrai retour sur expérience, quoi. Voilà. Tout à fait.
Ça, on le sait, et même les foreurs le savent, quoi, en fait. Donc, ça, on va pas débattre là-dessus, c'est clair. Donc, il y a des études scientifiques faites par des universités qui peuvent pas être mises en cause, pas être mises en doute. Il y a ensuite de quoi on va débattre.
De quoi on va débattre.
Est-ce que ça vaut le coup? Le seul débat dans ce cas-là qui va avoir lieu, mais dans ce cas-là, moi, je vais vous donner ma réponse, quoi. C'est ce qu'on va pouvoir dire, c'est est-ce que ça vaut le coup de polluer des régions entières, de sacrifier des régions entières, des populations, des populations importantes,
tout à fait,
pour prolonger un peu notre dépendance aux hydrocarbures. Bon, moi je réponds non, quoi. Mais il y a pas de débat à avoir là-dessus, quoi.
Oui, en plus, si on sortait d'un débat purement environnemental et qu'on allait sur un débat purement économique, on pourrait dire ça coûte combien de dépolluer, ça coûte combien de remettre en état.
Voilà,
et en plus, c'est à la charge de l'État. On rappellera ça.
C'est à la charge de l'État, puisque voilà.
Il faudrait faire le coup dans les deux sens.
N'ont pas à remettre en état à dépolluer les sites.
Finalement, il y a pas de débat, semble-t-il, possible sur cette question, puisque elle semble tranchée par le retour d'expérience aux États-Unis, elle est tranchée par pas mal de choses. Quand on voit aussi le rendement énergétique d'aller chercher du gaz de schiste à 3000 mètres, je crois que c'est presque 0,9 baril pour un baril. Hein,
on est même à 0,95, 0,97.
On se rapproche demain. Donc il y a vraiment
quasiment autant d'énergie qu'on en récupère. Mais ce qui fait gagner de l'argent aux compagnies, c'est la spéculation. circulation, on le rappelle. Et il faut le rappeler, il faut le marteler. Quoi.
Alors, quel est l'intérêt de l'État dans tout ça ?
L'intérêt de l'État, c'est de récupérer des taxes, c'est de rester copain avec les gens qui financent les campagnes électorales.
Le bing.
Enfin, j'en sais pas. Non, non, je veux pas.
Non, mais,
leurs intérêts, ils sont multiples, quoi. C'est évidemment, il y a une partie de si du gaz est exploité, il y a des charges qui vont revenir à l'État.
Il y a beaucoup de nouvelles taxations sur les pétroliers qui sont mis en route.
Donc, mais en même temps, c'est ce que je pense aussi, c'est qu'on veut pas se fâcher avec, parce que ce sont les financiers quoi qui dirigent ça. Quand on a un homme politique de premier rang, on veut pas se fâcher avec les financiers. C'est eux qui financent les campagnes électorales.
On rappellera la chute prématurée de la ministre de l'écologie suite au forage en Guyane.
Ah oui, la très
Nicole Bricq.
Très brève Nicole Bricq qu'on a vue pendant quelques jours seulement, qui a été déposée non pas par le Premier ministre, mais par le président de Shell, quoi, en fait. Il faut le crier haut et fort, quoi. Oui,
c'est quand même assez fou. Alors, le collectif devance ces débats qui n'en sont pas. Alors, vous avez une opération carte postale, j'ai vu. Alors, c'est un peu fini, les vacances, mais destinée au ministre, cette fois-ci. C'est aussi pour préparer cette conférence.
Pour préparer la conférence environnementale, une opération carte postale. Donc, on envoie à tous les ministres en disant, bon, arrêtez et redevenez raisonnable. Donc, pour avoir les informations, on va sur le site du collectif 07 Stop au gaz de schiste. Hein. Mm-hmm. Donc, www.stopaugazdeschiste07.org. Et là, vous avez l'opération carte postale. Ah, il faut que la carte arrive avant le 14, donc on a encore quelques jours pour cette opération.
Tout à fait, parce qu'on n'oubliera pas les déclarations du Premier ministre. Hein. Rien n'est tranché sur les gaz de schiste. Arnaud Montebourg, qui fait aussi en plus du nucléaire, qui fait des déclarations très surprenantes, très engageantes pour le gouvernement.
Ouais, pour le redresseur productif est très productif en intervention.
Très bizarre. Alors là, on pourrait dire, mais il n'y a pas de concret pour l'instant, parce que tout ça, finalement, c'est des paroles politiques, c'est des engagements. Mais justement, ce qui est le plus grave, c'est que le concret semble arriver.
Le concret semble arriver, en fait.
Dans nos provinces.
Il semblerait que sur le permis Plaine d'Alès, la société Mouvoil qui détient ce permis, soit sur le point de faire passer ces camions sismiques dans les vallées qui sont à cheval, donc sur le sud Ardèche et sur le nord Gard.
Voilà. On rappellera que le permis du Gard n'a pas été annulé, contrairement au permis Ardéchois.
Il y a une partie qui est sur l'Ardèche. Donc, il semblerait en fait qu'une demande ait été déposée à la préfecture du Gard dans ce sens. C'est à confirmer, mais on est certain que c'est parti, quoi. En fait, que les foreurs là ont mis le paquet, quoi, pour faire du lobbying. Les politiques ont plié, ils ont changé d'avis, enfin du moins ils se sont rangés à leur avis. La presse a fait son boulot, donc maintenant
la confrontation est inévitable.
Les foreurs vont au boulot et donc en région parisienne, dans la région de Doubs, les forages vont démarrer. Sur Gare Ardèche, donc les détections sismiques vont démarrer et on attend d'autres départs. En même temps, cette demande de travaux pour les camions sismiques à la préfecture, donc elle est quand même relativement intéressante si elle est confirmée, parce qu'en fait on va voir la préfecture, c'est évidemment la parole de l'État.
Tout à fait.
Et on va voir la réponse de la préfecture. La réponse de la préfecture nous donnera la position exacte du gouvernement, quoi.
Oui, c'est ça, en dehors, voilà, en direct.
Voilà, en direct, là, ce ne sera pas des mots, ce ne sera pas des oui-mais, des peut-être, des machins. C'est est-ce qu'on signe ou est-ce qu'on ne signe pas, quoi. Si cette demande est signée, on va sortir les fourches.
Oui, là, tout ce qu'on a pu évoquer depuis pas mal de... Ça fait presque un an qu'on fait cette émission. Hein, on va faire un triste
an,
anniversaire.
Ça fait un an de la semaine prochaine.
Oui, la semaine prochaine. Tout ce qui a été évoqué, toutes ces mobilisations, toute cette structuration également de l'opposition, tout ça, finalement, ça va avoir lieu, ça va se mettre en route sur le terrain de façon concrète. Hein, il va falloir...
Voilà,
C'est une autre étape qui est franchie dans le combat.
Et en fait, on a longuement parlé de tous les préparatifs des collectifs au sein des VIA, donc des opérations de veille, information, action. Tous ces préparatifs, ben, finalement, n'étaient pas faits pour rien. Et il semblerait qu'on veuille passer au concret
assez rapidement. Alors, ce qui est très surprenant, c'est qu'effectivement, tout ce lobbying médiatique sur les gaz de schiste a un effet quand même assez paradoxal, mais qui pourrait servir aussi la cause. C'est qu'au bout du compte, on reparle des gaz de schiste, alors qu'on rappelle quand même qu'il y a un an et demi, on a voulu faire passer ces opérations de façon extrêmement discrète. Personne n'en parlait, il ne fallait pas en parler. Et finalement, en remettant ça sur la place publique, peut-être que les gens se réveillent, parce que j'ai entendu souvent les gens dire « mais les gaz de schiste, c'est fini, il y a une loi qui a enterré tout ça ». Et ben finalement, la communication actuelle dit bah non, pas du tout, c'est d'actualité.
Oui, c'est exactement ça. Après la loi de juillet 2011, c'est vrai qu'il a été très très difficile de mobiliser, quoi, parce que cette loi n'était pas satisfaisante. Elle interdisait la fracturation hydraulique. Mais sans la définir, en disant que on pouvait quand même en faire pour des raisons scientifiques, donc c'était pas très juste. Mais cette loi, elle a été faite pour démobiliser, et là, en partie, atteint son but, quoi. Les foreurs, en faisant cette énorme opération de lobbying, remettent le sujet sur la table, et c'est vrai que. On peut dire que ça nous sert, quoi.
Voilà. En plus, ça tombe très très bien, c'est que le 22 septembre, il y a la journée mondiale d'action contre le gaz de schiste. Alors, le terme mondial est important parce que c'est un de vos slogans, hein, ni ici ni ailleurs.
Voilà, c'est ça. C'est que nous, on va pas aller manifester dans le Gard ou en Ardèche ou dans le Vaucluse ou dans la Drôme pour dire non, venez pas abîmer nos verts paysages. Mais on dit que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on parle de transition énergétique, c'est qu'on sorte des hydrocarbures, et c'est pas la peine d'aller chercher les dernières gouttes. au prix terrible, quoi, au prix de notre santé, quoi.
Oui, alors ça, c'est pour finir sur le débat énergétique, c'est vraiment toujours la question qui est éludée, c'est-à-dire que on reste dans des énergies fossiles qui produisent des effets de serre, parce que ça peut être du gaz, il y a des effets de serre, ouais, serre sur le gaz
qui sont même énormes, parce
très énormes, bien sûr.
Il y a des effets de serre lorsqu'on les consomme, mais il y a l'effet de serre pour les
recherches. Rechercher, tout à fait. Alors du coup, donc cette grande manifestation, alors mondiale, en France, il y aura deux sites différents, un au nord et un au sud.
Voilà. Alors pour ce Global Frackdown, qui est le nom générique pour le monde entier, donc dans tous les pays du monde. Donc en France, il y aura deux sites, donc un site dans le nord, en région parisienne, pour la partie nord de la France, un site pour la partie sud, qui sera à Saint-Christol-les-Alès dans le Gard. Donc, pour avoir les renseignements là-dessus, je vais tout de suite vous donner, avant qu'on oublie et avant qu'on continue d'en parler. Donc, on peut avoir tous les renseignements donc sur le site du collectif 07, stopaugazdeschiste07.org, ou aussi pour les gens qui sont dans la Drôme, sur le site donc nonaugazdeschiste-drôme-tout-attaché.org. Donc, on peut avoir tous les renseignements. Il y a des services de cars qui seront mis en place. On peut se renseigner, réserver sa place. On a sur ces sites les affiches, les tracts à distribuer. On a tous les renseignements, le programme, etc. Voilà.
Voilà. Le programme de la journée, bon, est assez complet. Bien sûr, il y aura des témoignages également des pays qui subissent cette exploitation sauvage, hein, parce que c'est un peu le mot.
Il y aura des témoignages internationaux, des États-Unis, des Pays-Bas, du Guatemala. Il va y avoir des conférences, des ateliers. On va parler de la Pologne, du Québec, de l'Espagne, des conférences sur la santé, sur l'environnement, des projections, des débats, de l'info, des stands, des points d'échange avec les élus. Là, on va se marrer.
Est-ce qu'ils seront là cette année?
Je sais pas s'ils seront là.
Si, peut-être l'UMP va arriver, du coup.
Peut-être que l'UMP va arriver, oui. Mais on va voir. Mais donc, beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges. Et en fait, ce que l'on souhaiterait, c'est que cette journée soit vraiment un immense rassemblement pour vraiment montrer aux politiques qu'on n'a pas baissé les bras, qu'on est toujours là et qu'on compte sur eux, qu'ils sont nos élus et qu'ils font ce qu'on leur demande. Voilà. Quoi.
Et qu'il faut avant tout défendre l'intérêt public, parce que c'est ça le grand sujet. Voilà.
Donc, le collectif 07 a édité un communiqué de presse. En fait, je ne vais pas vous le lire parce qu'il fait une page, mais juste quand même, je vais vous le lire la fin parce que c'est quand même notre positionnement, quoi, en fait. On dit donc la question ne doit pas tourner seulement autour de la fracturation hydraulique, mais bien de la vision qu'a le gouvernement sur la transition énergétique, en fait. C'est pourquoi l'ensemble des collectifs du sud de la France, etc., etc., s'associe le 22 septembre, la journée mondiale d'action contre les gaz et l'huile de schiste. Ils réaffirment leur opposition à toutes les exploration et exploitation d'hydrocarbures utilisant cette technique destructrice en France et de par le monde et exprimeront leur solidarité avec tous les mouvements se mobilisant pour protéger leur communauté contre l'extractivisme.
Oui, parce que finalement, les pétroliers jouent beaucoup avec les mots et essayent d'éluder la recherche donc de gaz de schiste en disant nous, on force simplement pour trouver du pétrole. Et oui. Le terme conventionnel. Et donc, vous aussi, vous savez contourner l'obstacle et dire que c'est un débat beaucoup plus large, voilà. Et que c'est pas la peine non plus de forer pour trouver autre chose, quoi.
Non, voilà. On en a assez. On est, de toute façon, on est dans le mur quasiment.
Oui,
on est à 10 cm du mur, on est au bout, il n'y a plus d'hydrocarbures, il n'y en a plus beaucoup. On sait qu'à 20 ans, à 50 ans, mais que ce soit 20 ans, 50 ou 80 ans, c'est la même chose, quoi. Il faut très, très, très vite trouver d'autres solutions, quoi. Il faut avancer, voilà. Quoi.
Il faut rappeler que GDF Suez n'est pas une entreprise publique, donc le gaz qui sera trouvé par Suez ne sera pas un gaz public à un prix différent du gaz normal. Il sera sur le marché mondial, ce gaz, et il sera au prix normal du gaz. Parce que les Français ont l'impression aussi qu'avec une manne de gaz gigantesque, ils vont avoir une énergie finalement très peu coûteuse qui permettra de diminuer sa facture énergétique. Pas du tout. Hein. C'est un système privé où le gaz est au
prix... Mais si Total exploite du gaz en France, il vendra son gaz sur
le marché mondial,
tout à fait. Au prix du marché mondial.
Exactement.
Avec la loi de l'offre et de la demande. Donc c'est pas pour ça que la France aura un gaz beaucoup beaucoup moins cher.
Tout à fait. Ben ça c'est des contre-vérités avec lesquelles il faut continuer.
Voilà. Et donc on appelle vraiment maintenant pour cette journée tous les politiques donc à nous rejoindre et à venir se battre avec nous et à essayer de faire changer tout ça.
Merci Paul. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Touche pas à mon schiste.
À dans 15 jours Thierry.
Merci.